Lisons ensemble dans Exode 21. Exode 21, versets 2 à 6. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années, et la 7e, il sortira libre, gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul. Verset 5. Mais si le serviteur dit positivement, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira à toujours. Puis dans Philippiens 2, Philippiens 2, verset 3, « Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le sujet que j'avais à cœur d'étudier avec vous, c'est donc un sujet en 5 parties. Comme mentionné sur la feuille, des relations différentes dans lesquelles Dieu nous a placés. D'abord comme esclaves, deuxièmement comme disciples, puis aussi comme enfants de Dieu, fils de Dieu, et frères du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons donc le privilège d'étudier ensemble la parole sur ce premier sujet. Et je pense que c'est un sujet qui peut avoir beaucoup d'impact dans notre vie. Ce n'est pas seulement pour étudier ce sujet d'une façon intellectuelle. On pourrait étudier ça avec ses feuilles, puis feuilleter la parole, puis trouver tous les passages. C'est important. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir cette pensée, comme nous avons lu dans Philippiens 2, la même pensée qui était dans le Seigneur Jésus doit être en nous. Et c'est donc le but, ou un des buts, que ce soit le cas en nous, dans la vie individuelle de chacun et de chacune de nous, que cette même pensée soit trouvée, en moi, en vous. Pour faciliter un peu le sujet, j'ai préparé ces feuilles, puis on ne peut pas pénétrer dans chaque détail, mais ça peut aider un peu pour suivre les grandes lignes. Donc d'abord, cette remarque. Dans Exode 21, nous avons lu donc de la situation qu'un serviteur ou un esclave, c'est la même pensée, serviteur ou esclave, un serviteur hébreu était vendu. Pourquoi? C'était vraiment une situation anormale. Et donc, on peut dire la pensée d'esclave comme telle, c'est une pensée anormale. On ne trouve pas ça dans la création, ni dans les relations que Dieu a établies après la création. Mais c'était quand même le cas. Et Dieu se sert donc de cette situation pour nous donner une illustration de ce que le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur Jésus, lui, est venu ici-bas, dans ce monde, comme nous avons chanté, un esclave volontaire. Il n'avait aucune obligation de le faire, c'était par amour. Et nous pouvons donc apprendre beaucoup du Seigneur Jésus. Et c'est pour cela aussi que j'avais à cœur de parler toujours d'abord du Seigneur Jésus comme notre modèle, et après voir aussi les conséquences pratiques de sa marche pour nous. Donc, d'abord, comme nous voyons le Seigneur Jésus comme l'esclave parfait, il était par amour. Et c'est ça que nous avons vu dans Exode 21. C'était vraiment une question d'amour. Nous avons lu donc que ce serviteur voulait rester avec son maître. Il a dit, verset 5, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. » Et c'est ça que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, « J'aime mon maître. » Il, lui comme homme, il a aimé Dieu. Il a reconnu Dieu dans tous ses droits. Nous, comme hommes pécheurs, nous avons déshonoré le nom de Dieu. On n'a pas honoré les droits de Dieu. On ne l'a pas reconnu comme notre maître. Mais le Seigneur Jésus l'a fait par amour. Il a dit, « Moi, j'aime mon maître. » Et puis, il ajoute, « Ma femme. » Le Seigneur Jésus a aimé l'assemblée. C'est ça qu'on trouve dans Éphésiens 5. Quelle pensée que le Seigneur Jésus a aimé l'assemblée. Mais la parole ajoute ici aussi, « Et mes enfants. » On peut dire, comme nous avons lu ce matin dans Éphésiens 5, le Seigneur Jésus a aimé tous les enfants de Dieu, individuellement, chacun. Et puis, dans le verset 5, nous avons lu, « Je ne veux pas sortir libre. » Il aurait pu sortir libre. Le Seigneur Jésus s'est placé volontairement sous ce joug, pas le joug du péché, mais le joug pour servir Dieu comme homme. Il l'a fait volontairement. Et à la fin de sa vie, à la fin de son service, il a dit, « Je suis sorti de Dieu. » Dans Jean 13, il était capable de retourner vers Dieu. Imaginons un homme qui a vécu 33 ans ici-bas sur la terre. Il était capable de retourner comme tel au ciel. Il aurait pu faire ça. Mais là, il aurait été seul, toujours seul. Mais le Seigneur Jésus n'a pas voulu rester seul. Il a voulu avoir vous et moi avec lui dans la gloire, pour toute l'éternité. Quelle pensée! Et pour cela, pour réaliser cela, il a donc, selon cette image-là, fait percer son oreille avec un poinçon. Ça parle des douleurs du Seigneur Jésus, des souffrances du Seigneur Jésus, surtout à la croix aussi. Quelle douleur il a supporté pour réaliser que nous soyons toujours avec lui. Et puis le résultat, c'est il le servira à toujours. On le voit donc ici dans l'illustration de ce serviteur hébreu. On voit vraiment le Seigneur Jésus comme il s'est humilié et puis pour nous racheter et puis pour servir Dieu à toujours, mais aussi nous. Donc, ce passage dans Exode 21 nous donne beaucoup de détails à comprendre vraiment ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Juste pour suivre maintenant un peu le point que j'ai mis ensemble sur la feuille, on voit donc que le monde gisait dans le mal. Le monde était en pleine rébellion contre Dieu. Et on voit, à un moment donné, après 4000 ans de l'histoire humaine, que Dieu a envoyé son Fils. Et puis, Dieu a introduit, pour ainsi dire, son esclave à lui, pour que le Seigneur fasse vraiment la volonté de Dieu, tout son bon plaisir. Donc, imaginons un homme maintenant qui est venu pour faire toute la volonté de Dieu. C'était extraordinaire. Et c'est remarquable, dans Ésaïe 53, on voit que la parole nous parle du Seigneur Jésus comme « mon serviteur », ou on pourrait lire « mon esclave ». Dieu dit donc « mon esclave ». Il y a seulement un homme duquel Dieu a pu dire ça. Et on voit le chemin que le Seigneur Jésus est allé. D'abord, on voit son incarnation. On peut penser à Jean 1, verset 14, qui nous dit que la parole est devenue chair. C'est donc l'incarnation. La parole, une personne divine, le Fils éternel, est devenu chair. Et la parole nous parle de cela aussi dans l'Ancien Testament déjà. Dans le psaume 40, on voit que c'était déjà annoncé dans le verset 6. Puis lisons le verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Ici, nous voyons donc le pas que le Seigneur Jésus a fait, comme nous avons lu aussi dans Philippiens 2. Il était dans la gloire. Il était Dieu. Il est toujours, il n'a pas cessé à être Dieu, mais il a fait ce pas. Il s'est humilié, s'est abaissé. C'est ça que nous avons lu dans Philippiens 2. Et puis, c'était pour faire ta volonté. On voit donc ici le vrai esclave, le vrai serviteur qui est venu pour faire la volonté de Dieu. Mais le point que j'aimerais maintenant souligner, c'est que la parole parle ici de ses oreilles. Verset 6 du psaume 40. Au sacrifice et à l'offrande de gâteau, tu n'as pas pris plaisir, tu m'as creusé des oreilles. Et puis verset 7 nous parle donc de sa venue et pour faire la volonté de Dieu, comme on le lit aussi dans Hébreux 10. Et dans Hébreux 10, nous voyons que la parole cite ce même verset, mais là, l'Esprit a changé ce mot, et on voit que c'était mon corps. Parce que l'oreille, c'est caractéristique, c'est la caractéristique d'un esclave. Un esclave doit d'abord écouter, afin de faire la volonté du maître. Donc, son oreille, ses oreilles étaient mentionnées, mais cette volonté était faite dans son corps. Tout son corps était nécessaire pour faire cette volonté. Et c'est pour cela que, je pense, la traduction grecque de l'Ancien Testament a donné déjà cette pensée que « tu m'as creusé des oreilles » peut être traduit comme ça, « tu m'as formé un corps ». Puis ces deux pensées vont ensemble, donc, l'oreille, c'est l'instrument pour écouter la voix du maître, et puis le corps est nécessaire pour faire cette volonté. Donc voilà, le Seigneur Jésus est devenu chair, mais dans un corps, dans son corps, préparé par Dieu, il a fait la volonté de Dieu. Juste une petite note, on voit aussi que le Seigneur Jésus est devenu esclave à cause du fait que nous étions en esclavage. Donc, c'est ça qu'on trouve dans Zacharie 13, verset 5. Le Seigneur Jésus est devenu esclave parce que l'homme tombé dans le péché, l'homme éloigné de Dieu, l'a causé être un esclave. C'est donc une autre pensée. Là, on voit que le Seigneur Jésus est venu ici-bas pour s'identifier avec l'état où la race humaine se trouvait devant Dieu. Mais même là, juste là, il a glorifié Dieu parfaitement. Dans sa vie, ça c'est donc le deuxième point, dans sa vie. Et pour comprendre cela, de nouveau, l'oreille est mentionnée dans Ésaïe 50, où nous voyons le Seigneur Jésus, juste pour mentionner, dans le verset 3, on le trouve comme le Créateur qui a créé les cieux. Aussi dans le chapitre 49, au début, on le voit comme le Créateur. Et dans le verset 4, nous le voyons comme homme débonnaire, humble et débonnaire. Verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. » Ici, nous voyons donc le Seigneur Jésus comme un homme débonnaire, humble, dépendant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu, réveille mon oreille pour que j'écoute. Donc le Seigneur Jésus était instruit. Dieu voulant, on va voir ça aussi en rapport avec le sujet de disciple. Le Seigneur Jésus était le parfait disciple. Mais en rapport avec cette pensée de l'oreille, j'aimerais mentionner ça, que le Seigneur Jésus était toujours le vrai esclave. Il a toujours d'abord écouté. Ça, c'est une grande leçon pour nous. D'abord, écouter. Souvent, on fait juste par impulsion quelque chose. Mais le Seigneur Jésus a d'abord écouté chaque matin. Quel encouragement pour nous aussi. Et puis, dans Philippiens 2, le passage que nous avons lu, nous le voyons vraiment dans sa vie, comment il était là pour faire la volonté de Dieu, dans une parfaite obéissance. C'est donc le mot-clé vraiment pour comprendre ce qu'un esclave est, qu'il est obéissant au maître. Et cette obéissance, on trouve aussi dans Hébreux 5, verset 8, où la parole nous dit que le Seigneur Jésus a pris obéissance. Il n'a pas appris à être à obéir. Et il avait vraiment cette nature pour faire toujours la volonté de Dieu. Mais pour lui, le Créateur, il était donc une chose tout à fait nouvelle d'apprendre ce que c'est l'obéissance. Il n'était jamais désobéissant. Mais lui, le vrai Créateur, il a appris ce que c'est l'obéissance. C'est ça que la parole nous enseigne dans Hébreux 5. Et puis là aussi, le Seigneur Jésus est donc là un parfait exemple pour nous. Mais c'était quelque chose de merveilleux de voir le Créateur ici-bas comme homme. Et lui a appris l'obéissance. Et c'est ça qu'on trouve dans Philippiens 2. Et pourquoi? On va voir ça afin que nous ayons aussi maintenant cette même attitude, cette même esprit, cette même pensée, obéir pour faire la volonté de Dieu, puis là, on peut être une bénédiction. La même attitude du Seigneur Jésus, d'obéissance, on la voit en rapport avec sa mort. C'est encore dans Ésaïe 50, parce que de nouveau, son oreille est mentionnée dans le verset 5. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je n'ai pas été rebelle, je ne me suis pas retiré en arrière, j'ai donné mon dos à ceux qui frappaient. » C'est vraiment un passage très touchant qui nous présente les souffrances du Seigneur Jésus comme le vrai esclave. Il a subi pour la gloire de Dieu. Et puis, pour revenir à notre passage qu'on a lu au début, Exode 21, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a pu subir tout cela? C'était par amour. Son amour, c'est vraiment le secret derrière tout ça. Et puis, ce sera pour nous aussi donc une leçon, un encouragement pour être un vrai esclave, pour servir les uns les autres, pour être une bénédiction. Il faut que ce soit par amour. Autrement, c'est impossible. Donc, pour résumer, on voit donc que le Seigneur Jésus avait des oreilles pour écouter. Et puis, Dieu lui a donné un corps, tout à fait préparé par Dieu lui-même, un corps pour obéir avec tous les membres de son corps, pour ainsi dire. Ses mains ont seulement fait la volonté de Dieu. Même les pensées de sa tête et les affections de son cœur, c'était tout pour faire la volonté de Dieu, pour faire le bon plaisir de Dieu. Donc, ainsi, comme on va voir plus loin, nous avons aussi reçu un corps pour faire maintenant la volonté de Dieu. Mais cela, comme j'ai indiqué ici, sur la feuille, cela implique des souffrances. C'est un sujet à part, à étudier, mais on voit que dans un monde où la pensée de Dieu est rejetée, où Dieu est rejeté, faire la volonté de Dieu, ça veut dire les souffrances. Et nous voyons dans le Seigneur Jésus vraiment quelqu'un qui a vécu pour faire la volonté de Dieu, qui a vécu pour faire la justice, et puis c'était une vie pleine de souffrances pour le Seigneur Jésus. Mais c'était tout pour la gloire de Dieu. Une remarque encore. On peut voir comment le corps du Seigneur Jésus est précieux maintenant, pour nous aussi. Ce corps était d'abord pour Dieu, pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit maintenant dans 1 Corinthiens 14, où il a... excuse, 1 Corinthiens, c'est juste une erreur, c'est 1 Corinthiens 11, verset 23. Le Seigneur Jésus a dit maintenant, ceci est mon corps qui est pour vous. Donc il faut changer ça, c'est 1 Corinthiens 11, verset 23. Ceci est mon corps. Le Seigneur Jésus nous donne la scène, ses emblèmes, ce pain, comme une expression de son corps. Où c'est vraiment, ça présente son corps. Et puis tout ce qu'il a fait pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu, il partage cela avec nous maintenant. Ça, c'est la pensée. Donc tout ce que nous pouvons maintenant trouver dans son corps, comme il a honoré Dieu, glorifié Dieu, Dieu met maintenant ça à notre disposition. Il veut partager cela avec nous. Le Seigneur lui-même veut partager cela avec nous. Il a dit, c'est mon corps qui est pour vous. Donc, tous les détails dans la vie du Seigneur Jésus pour honorer Dieu, ce sont des instructions, pas seulement, mais c'est aussi, ce sont des choses qui nous amènent à l'adoration. Et on a lu donc un autre aspect encore dans Exode 21, il le servira à toujours. Le Seigneur Jésus était le parfait esclave ici-bas, mais pas seulement pour faire la volonté de Dieu dans un monde où tout est contraire à la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus sera l'esclave pour toujours, pour plaire au cœur de Dieu pour toujours. C'est ça qu'on a vu dans Exode 21, dans cette illustration. Mais le Seigneur Jésus va nous servir aussi pour toujours. C'est ça qu'on trouve, j'ai mentionné ça, on le voit donc dans sa vie ici-bas comme le parfait esclave, mais maintenant, encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus est le vrai esclave. On connaît l'histoire de Jean 13, le lavage des pieds, comment le Seigneur Jésus a lavé les pieds des disciples, c'était le service d'un esclave. Mais vous voyez, il le fait encore aujourd'hui. Ce service, le Seigneur Jésus fait continuellement. On l'a vu un peu à la conférence à Shawinigan dans Éphésiens 5, comment le Seigneur Jésus nous sert comme un vrai esclave. Et puis, on pourrait mentionner beaucoup d'autres aspects du service du Seigneur Jésus, comment il nous sert maintenant dans la gloire. Mais, il va nous servir pour toute l'éternité. Et c'est ça qui est indiqué dans Luc 12, verset 37, où le Seigneur Jésus va nous mettre à table, à sa table, pour ainsi dire, il va partager avec nous tous les trésors de la maison du Père. Il sera donc le vrai esclave pour nous servir à toujours. Quelle pensée! J'ai ajouté juste une note. On voit dans le livre d'Exode que ce vrai esclave a satisfait le cœur de Dieu et Dieu voulait, pour ainsi dire, que lui soit aussi le vrai sacrificateur. Si nous comprenons que le Seigneur Jésus, comme le vrai esclave, a satisfait le cœur de Dieu, on peut comprendre aussi que cette personne bénie prend toute la place. Il est le vrai sacrificateur. Il est le vrai roi. Personne d'autre pouvait être cela. Et c'est pour nous la même chose. Je saute maintenant dans l'autre sujet, notre responsabilité. Pour jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous donne, comme des rois, des sacrificateurs, il faut d'abord être un esclave. C'est ça qu'on va voir. Donc le Seigneur Jésus a satisfait le cœur de Dieu, comme nous avons vu ce matin aussi. Quelle bénédiction pour le cœur, de voir ça, que le cœur du Père, le cœur de Dieu a été satisfait par cet homme humble et débonnaire. On peut comprendre pourquoi Dieu l'a exalté, comme nous avons lu dans Philippiens 2. Dieu donne donc la réponse. La réponse de la part de Dieu, c'est Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a glorifié et exalté. C'est la réponse de la part de Dieu. Dieu ne peut pas se taire, pour ainsi dire, parce qu'il a vu comment un homme l'a honoré et l'a glorifié. Dieu, de sa part, l'a honoré et l'a glorifié. Et sa position, la position du Seigneur Jésus dans la gloire, est maintenant ma position et notre position. Quelle bénédiction! Maintenant, pour suivre cette introduction, on voit comme le Seigneur Jésus est devenu notre exemple et notre modèle. D'abord, il était donc l'esclave parfait pour satisfaire le cœur de Dieu. Mais en même temps, nous le voyons aussi comme notre exemple parfait. C'est ça qu'on a vu dans Philippiens 2. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est présenté là, au sein? parce qu'ils ont quelque chose à apprendre. Nous avons besoin d'être humbles et de débonnaire. Comment est-ce qu'on peut apprendre cela? Nous avons besoin, comme nous le voyons dans Philippiens 2, d'avoir une même pensée, un même amour, un même sentiment. Nous avons besoin de ne pas faire quelque chose par esprit de parti ou par vaine gloire. Toutes ces choses-là qui sont mentionnées au début du chapitre 2 sont des besoins que nous avons. Comment est-ce qu'on peut réaliser ces pensées de Dieu en suivant maintenant l'exemple du Seigneur Jésus? Et c'est pour cela que la parole ajoute, verset 5, qu'il y ait donc en vous cette pensée. C'est maintenant notre responsabilité. C'est pas seulement que Dieu veut présenter le Seigneur Jésus, comment il a satisfait son cœur, il le présente maintenant aussi comme notre modèle pour suivre. Et le Seigneur Jésus, le vrai esclave, est notre modèle pour être des esclaves maintenant, ici-bas, dans un monde où Dieu est rejeté. On voit donc les mêmes traits moraux de Christ manifestés en nous. Le vrai esclave, les mêmes traits vus en nous maintenant. Ça, c'est le défi, pour ainsi dire. Ça, c'est que Dieu veut que les mêmes traits soient vus en nous. Et on peut dire des chrétiens sont ceux qui manifestent ces traits moraux. Il y a beaucoup de chrétiens nominels, professants, qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais rien de Christ est vu dans leur vie. Ici, on voit la pensée de Dieu, que Christ soit vu en nous. Donc, Christ, le parfait esclave, vu maintenant en nous. La même pensée en vous et moi. Et c'est donc un exercice pour les frères et les sœurs. C'est ça qu'on trouve dans Deutéronome 15. On n'a pas le temps vraiment à lire tous ces passages-là, mais vous pouvez prendre cette feuille avec vous et puis lire à la maison. Dans Deutéronome 15, on voit presque la même instruction que nous avons lue dans Exode 21, mais c'est pas la même. Ça semble être la même instruction, mais il y a une grande différence, parce que là, on voit que c'est maintenant possible pour tous les membres du peuple d'être un esclave, d'être un serviteur ou une servante. Et ça donne donc un exemple pour nous, pour les frères, mais aussi pour les sœurs, que ce soit un exercice pour nous tous d'être vraiment un esclave. D'abord pour faire la volonté de Dieu, mais aussi pour être une bénédiction pour les autres membres du peuple de Dieu. C'est ça qu'on trouve dans Deutéronome 15, versets 12 à 18. Un autre exemple que le Seigneur Jésus nous a donné lui-même, j'ai mentionné déjà, dans Jean 13, là, le Seigneur Jésus a dit, après qu'il fait ça, « Moi, je vous ai donné un exemple. Bienheureux serez-vous lorsque vous suivrez cet exemple-là. » Donc, c'est vraiment pour être bienheureux. Disons, à un moment donné, nous suivons le Seigneur Jésus. Et en suivant le Seigneur Jésus, nous sommes bienheureux, même en faisant ce service d'esclave. Une autre pensée que le Seigneur Jésus ajoute là, il a dit, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. On ne peut jamais surpasser le Seigneur Jésus. C'est impossible. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. Le Seigneur Jésus est notre modèle, mais aussi la mesure parfaite, pour ainsi dire. Il est le vrai standard. Une autre pensée, dans Matthieu 10, verset 25, c'est un verset clé aussi à comprendre, où le Seigneur Jésus dit que il suffit à un esclave d'être comme son maître. Donc, il est vraiment suffisant pour nous de devenir comme le maître. Et puis, cela nous donne une pensée que c'est un progrès graduel et aussi un exercice pour toute notre vie. Lorsque j'ai compris ça vraiment, la première fois, moi, j'aurais aimé que j'avais appris ça plus tôt. Parce que c'est vraiment essentiel pour notre vie comme chrétien de suivre cet enseignement. Devenir comme le Seigneur. Le Seigneur, c'est la relation avec le maître, avec l'esclave. devenir comme le maître ou celui qui enseigne, c'est en relation avec le fait que nous sommes disciples. C'est ça qu'on va voir une autre fois. Mais d'abord, devenir comme le Seigneur, notre Seigneur. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son Seigneur. C'est vraiment un exercice profond, et aussi, on peut dire, un exercice pour toute notre vie. Ça commence peut-être aujourd'hui pour la première fois dans notre vie, mais c'est un progrès graduel. On n'arrivera jamais au bout de cet exercice. On ne sera jamais 100% parfait. Mais le Seigneur Jésus est donc notre modèle et il nous attire pour devenir comme lui. C'est ça la force, la puissance qui est dans la personne du Seigneur Jésus pour nous attirer afin que nous soyons formés comme lui est. Et on peut dire le vrai christianisme, c'est donc ce qui est développé selon le modèle du Christ. Ça, c'est vraiment le vrai christianisme. Il est notre mesure. Et nous réalisons ces choses-là par l'enseignement, comme nous avons vu, l'enseignement de Dieu, l'enseignement du Seigneur Jésus, en contemplant la personne bénie du Seigneur. Il est donc très important d'être occupé de la personne du Seigneur. En étant occupé de sa personne et attiré par lui, nous devenons comme lui. C'est donc une formation. C'est ça que Dieu veut. Nous former pour être comme le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous a appelés une fois, comme il a appelé les disciples, pour être avec lui. Nous sommes formés en étant dans sa présence. Nous apprenons de lui. Puis, il faut donc d'abord écouter comme un esclave pour connaître ses pensées et puis plus tard pour réaliser ses pensées. C'est ça qu'on voit sur la page 2. Les exemples dans l'Ancien Testament, par exemple, les amis de David, il était dans la présence de David lorsqu'il était rejeté. Ils ont appris beaucoup de David et plus tard, ils sont devenus des héros. Et d'une telle façon aussi, le Seigneur Jésus nous forme. Nous sommes dans sa présence, là où il est rejeté, et plus tard, nous sommes vus comme des vainqueurs, des héros, qui montrent les mêmes traits. Joseph, un autre exemple, il était un esclave, littéralement, en Égypte, et plus tard, le gouverneur d'Égypte. Donc, c'est une formation, c'est vraiment à l'école de Dieu où on est formé d'être des esclaves. Maintenant, pour continuer ce sujet, on voit dans la parole que nous étions d'abord des esclaves de notre maître. Nous avons vu le Seigneur Jésus est notre modèle parfait. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment apprendre de lui comme esclave de l'ancien maître? C'est pas possible. On a besoin d'abord d'être délivré. Donc le Seigneur Jésus est d'abord venu pour nous sauver et pour nous racheter, pour nous délivrer de l'ennemi. C'était nécessaire d'abord. Ce principe général, on trouve dans 2 Pierre 2, comme j'ai marqué sur la feuille, on est esclave de celui par qui on est vaincu. D'abord, on était donc l'esclave de Satan. Le Seigneur Jésus a remporté la victoire, il nous a délivré de la puissance de Satan, et maintenant nous sommes à lui. Quel changement! Une autre forme de servitude ou d'esclavage, on trouve dans les Écritures, en rapport avec le peuple d'Israël. Ils étaient en esclavage à cause de leurs péchés. Ils ont servi les nations. Ils étaient asservis aux nations à cause de leurs péchés. Maintenant, on trouve dans le Nouveau Testament la doctrine qu'on a étudiée dans Romains 6, par exemple, où on voit vraiment ce qui était autrefois notre position comme esclave et qui est maintenant notre position doctrinale comme esclave. Donc, la doctrine, on voit dans quelques passages, comme j'ai mentionné, Galates 4, verset 8, on était asservi à l'idolâtrie. Tite 3, verset 3, on était asservi à diverses convoitises et voluptés. Et ça vaut vraiment la peine à lire Romains 6 pour comprendre ce sujet. Comment nous étions des esclaves de l'ancien maître. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Il y a donc deux positions différentes. Nous étions des esclaves du péché, et la conséquence est la mort. Nous sommes devenus maintenant des esclaves de l'obéissance. Et puis verset 17, « Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Quel changement! Nous sommes maintenant instruits selon une nouvelle doctrine. Nous avons un nouveau maître, une nouvelle doctrine. Et notre cœur a été changé. C'est un changement de cœur. On a obéi de cœur maintenant. Et verset 18, « Mais ayant été affranchi du péché, l'ancien maître, affranchi de ce maître, vous avez été asservi à la justice. » Donc, libéré de l'esclavage du péché, on est de nouveau devenu des esclaves, mais des esclaves de Dieu, asservi à la justice, pour faire la justice. Verset 19, Paul ajoute, « Je parle à la façon des hommes à cause de l'infirmité de votre chair, car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves. » On voit donc que même tous nos membres étaient des esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour faire l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car, verset 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quel changement! Et on voit donc ici la doctrine de la parole qui nous présente ce changement, que nous sommes devenus maintenant esclaves de Dieu pour faire la volonté de Dieu avec tous nos membres, avec notre corps entier. Donc, quel contraste! D'abord, asservi à la au péché, maintenant asservi à la justice. Et aussi dans 1 Corinthiens 7, nous voyons un beau paradoxe. L'esclave, littéral, l'esclave, donc dans la situation sociale, est devenu un esclave de Christ, et dans ce sens-là, libéré, et le libre, l'homme riche ou le libre, est devenu un esclave de Christ. C'est un beau paradoxe. Nous sommes donc maintenant des esclaves pour faire la volonté de Dieu. Nous avons reçu des corps pour réaliser la justice de Dieu. Pour cela, Christ nous a mis en liberté. Et ce qui importe donc à considérer, Dieu a reçu ainsi la place dans nos vies qui lui est due. Autrefois, Satan était notre Dieu. Maintenant, le vrai Dieu a reçu sa place dans nos vies. Puis, sous son influence maintenant, nous sommes réformés et transformés, comme nous voyons aussi dans Romains 12, transformés sous le règne de sa grâce, en amour. Donc, la doctrine nous présente cette différente position. Maintenant, la pratique. Et on voit donc dans la vie de l'apôtre Paul ce changement. Il était autrefois un esclave de l'ennemi. Comment est-ce qu'il a été changé? Il a vu le Seigneur. C'est ça qu'on trouve donc dans le livre des Actes. Il faut avoir vraiment une impression de la suprématie et de la puissance du Seigneur. C'est pas suffisant que je vous dis, mais il faut devenir maintenant un esclave de Dieu. Il faut en même temps avoir vraiment soi-même une impression de la gloire de Dieu et de la gloire de la personne du Seigneur. Et c'est ça qu'on voit dans cette remarque, la conversion de Paul. Qui es-tu, Seigneur? Cela a changé tout. Il a vu le Seigneur, il a vu le Seigneur dans la gloire. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il était donc vraiment sous l'impression de la suprématie, de la puissance du Seigneur. Et après, il a dit, que dois-je faire, Seigneur? Dès ce moment-là, il n'a que fait la volonté du Seigneur. Il est devenu son esclave. Il a pu dire dans le Nouveau Testament du Seigneur Jésus dans Philippiens 3, mon Seigneur, c'est pour exprimer son affection pour le Seigneur. Le Seigneur est le maître, mais il est un maître doux. Il est un maître plein d'amour. Il nous attire vers lui. Et à cause de ça, on peut dire, mon Seigneur, c'est pour exprimer notre amour pour lui. On voit donc aussi que l'apôtre Paul et Timothée étaient des esclaves de Jésus-Christ, l'homme glorifié. Puis, on peut dire, nous sommes maintenant devenus des esclaves de Dieu. On était toujours des esclaves de Dieu, même comme créature, on était des esclaves de Dieu, mais on n'a pas reconnu ses droits. Et dans la rédemption, Dieu nous donne de nouveau la possibilité d'être de vrais esclaves, comme créature. C'est ça qu'on trouve dans Apocalypse 4, la gloire qui est apportée à Dieu par ses créatures. Mais nous sommes aussi des esclaves du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous a achetés pour Dieu, nous a délivrés, et nous sommes donc sa possession, sa propriété pour toujours. Et c'est ça qui est vu maintenant dans notre corps. Voilà l'importance de notre corps. On a vu l'importance de notre oreille pour écouter. Mais Dieu nous donne maintenant un corps délivré de la puissance de l'ennemi, un corps mis en liberté. Il nous a acheté, c'est ça qu'on trouve dans 1 Corinthiens 6, que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, la propriété de Dieu, et nous pouvons maintenant servir Dieu dans ce corps. Et vous n'êtes pas à vous-même. Quelle pensée? Un esclave n'est pas à vous-même. Un esclave a été acheté, a pris. Quel prix le Seigneur Jésus a payé? C'est un prix immense. Nous appartenons à lui, car vous avez été acheté à prix. Et la conclusion, glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est vraiment très essentiel à comprendre ça. Si nous sommes à l'école, si nous sommes à l'ouvrage, si nous sommes à la maison, là où nous sommes, Dieu nous a donné un corps pour que nous glorifions Dieu dans ce corps-là. Autrefois, nous avons glorifié l'autre maître, Satan, dans ce corps-là, pour pécher. Maintenant, nous glorifions Dieu dans ce corps. Et on voit aussi que c'est une question d'amour. C'est pour donner une réponse par amour que nous donnons maintenant notre corps à Dieu. On voit l'exemple aussi de l'apôtre Paul dans Philippiens 1, comment il a magnifié Christ dans son corps. Christ était magnifié dans son corps. Et à la fin de l'épître aux Galates, il a pu dire que les marques du Seigneur Jésus étaient en son corps. Voilà deux exemples où on voit comment l'apôtre Paul a magnifié Christ dans son corps. Et c'est encore pour nous aussi un exemple à suivre. Et puis, pour un esclave, ce qui est caractéristique, c'est que la volonté du maître doit être exécutée. C'est pour ça que nous avons reçu des oreilles, pour écouter la voix du maître. C'est pour ça que nous avons reçu un corps pour faire la volonté du maître. Nous sommes placés sous son autorité. Ce serait une étude spéciale, le royaume de Dieu, où nous sommes placés sous l'autorité du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est le roi dans ce royaume. Et nous lisons dans Romains 14 et aussi dans Romains 16 que nous pouvons servir Christ maintenant comme son esclave. Donc, de nouveau, cette pensée, nous sommes ses esclaves dans le royaume de Dieu maintenant. Et il est extrêmement important à comprendre que tous ceux qui confessent le nom du Seigneur sont placés sous son autorité. Mais on peut ajouter, malheureusement, pas tous font la volonté de Dieu, mais ils sont responsables pour faire la volonté de Dieu. Et une autre chose, nous ne pouvons pas vraiment jouir de la position que Dieu nous a donnée comme étant ses fils, comme des enfants de Dieu, si nous ne sommes pas vraiment des esclaves. Parce qu'un esclave fait la volonté du maître. C'est remarquable que la première épître aux Corinthiens, où l'apôtre montre les principes de Dieu pour l'assemblée, il mentionne là 66 fois le Seigneur comme Seigneur. En autre mot, pour réaliser la vérité de l'assemblée, il faut que nous reconnaissions le Seigneur Jésus comme le Vrai Seigneur, que nous soyons ses esclaves. Autrement, on ne peut pas mettre en pratique la vérité de l'Assemblée. Et on le trouve aussi dans Colossiens 1, où le Seigneur Jésus est d'abord présenté en rapport avec le royaume de Dieu, et plus tard, en rapport avec l'Assemblée. D'abord reconnaître ses droits comme le vrai Seigneur, après ça, on peut jouir de sa communion comme le chef de l'Assemblée. Donc, être un esclave de Christ est la condition pour pouvoir jouir de la position chrétienne et des bénédictions chrétiennes. Un exemple, dans Luc 15, c'est une illustration. Lorsque le fils prodigue est rentré chez lui, le père a dit aux esclaves de présenter la belle robe et l'anneau et les sandales. Les esclaves étaient au courant des pensées de Dieu. Et d'une telle façon, nous aussi, si nous sommes vraiment des esclaves, nous sommes prêts pour servir d'autres chrétiens, pour leur apporter cette belle robe, pour leur présenter cette vérité que nous sommes maintenant en Christ, agréable devant Dieu. Vous voyez? Donc, d'abord, les droits du Seigneur doivent être reconnus par ses esclaves dans le monde où il est rejeté, et puis nous pouvons jouir de sa communion et connaître ses pensées. Et c'est remarquable, nous vivons maintenant dans une situation où toute la chrétienté est en ruine. Est-ce que ça diminue les droits du Seigneur? Absolument pas. On le voit où Paul est en prison. Imaginons, l'apôtre Paul en prison, dans 2 Timothée. Tout était en ruine. Même les vrais chrétiens avaient tourné le dos vers l'apôtre Paul. Mais là, il parle d'un esclave du Seigneur. Timothée devrait être un esclave du Seigneur. Et d'une telle façon, nous aussi, nous pouvons être des esclaves du Seigneur. Ces droits sont rejetés dans ce monde, même dans la chrétienté. Nous pouvons être des esclaves du Seigneur, même là où tout est en ruine. Et c'est dans l'attente de son retour. Lorsqu'on dit dans notre cœur, mais ça va durer encore longtemps jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Non, dans ce cas-là, ça va pire. Et c'est ça qui est arrivé dans la chrétienté. Pendant son absence, qu'est-ce que l'esclave méchant a dit dans son cœur? Mon maître tarde à revenir. Donc ça, c'est vraiment la racine du mal. Lorsque nous disons, mais mon maître, nous le reconnaissons encore comme notre maître, mais il est en retard. Maintenant, je peux faire ma propre volonté. Je peux faire ce que moi je veux. Non, ça ne va pas comme ça. Et on voit donc dans l'exemple d'Abigaïl, dans l'Ancien Testament, vraiment un très bel exemple. Une femme qui était prête pour David. Elle l'a reconnu comme son Seigneur, où il était encore rejeté par son propre peuple. Donc, c'est vraiment essentiel à comprendre pour nous qu'un esclave n'a aucun droit à faire sa propre volonté. Et la nouvelle nature que nous avons reçue aime faire la volonté de Dieu. Et l'apôtre Jacques parle de la loi de la liberté. Nous sommes maintenant des esclaves, mais mis en liberté pour faire la pensée de Dieu. En autre mot, c'est donc une entière obéissance, ce que Dieu demande. Sans réserve. Marie a dit aux disciples, « Fais tout ce qu'il vous dira. » C'est ça vraiment ce qui est nécessaire pour nous. Faire toute la volonté du Seigneur, sans compromis. Puis, j'ai marqué donc quelques exemples dans la vie de l'apôtre Paul où on voit comment il était fidèle comme un vrai esclave. Maintenant, encore une pensée. C'est un exercice, souvent, on pense que c'est seulement pour les frères. Non, c'est aussi pour les sœurs. Et c'est remarquable qu'on voit que Marie, la mère du Seigneur, était une vraie esclave, dans Luc 1. Et aussi dans Acte 2, on trouve, au moins dans le texte grec, que les sœurs peuvent être des esclaves. Donc c'est vraiment, comme on l'a vu dans Deutéronome 15, un exercice qui est ouvert pour les frères et pour les sœurs. Un autre point, c'est juste pour montrer l'importance de ce sujet. Tous les écrivains des épîtres du Nouveau Testament s'appellent des esclaves de Dieu ou des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. On peut lire ça dans Tite 1, verset 1, et Jacques 1, verset 1, et d'autres passages comme Philippiens 1, verset 1. Une autre chose, dans les relations domestiques et sociales, les esclaves dans ce temps-là mais aussi les employés d'aujourd'hui ont une occasion spéciale pour orner l'enseignement. Donc, en autre mot, le Seigneur s'est servi de la position sociale que les esclaves avaient afin que eux, dans cette position, puissent montrer la grâce vraiment de Dieu. Et c'est donc pour nous aussi, pour les enfants, dans quelque situation que nous soyons, c'est une occasion que Dieu nous donne pour montrer maintenant la grâce de Dieu que nous avons appris. Maintenant, ce sujet nous donne encore d'autres considérations. Parce que si nous sommes des esclaves du Seigneur et des esclaves de Dieu, nous avons des relations les uns envers les autres comme esclaves. Les autres sont... Donc moi, je suis co-esclave de vous tous. Et puis, on voit dans quelques exemples, dans Matthieu 18, on voit l'importance de montrer un esprit de grâce envers les autres esclaves. Et aussi de vouloir pardonner. C'est ça qu'on peut lire dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Et puis, un autre point à considérer, si nous sommes des esclaves, nous le sommes pour servir les saints. Donc, on a vu d'abord pour servir Dieu. On est devenu maintenant un esclave de Dieu, pour servir Dieu, mais aussi pour servir les saints. C'est ça qu'on trouve dans 2 Corinthiens 4, où Paul a servi les autres saints dans l'Évangile. Il a fait donc ce service d'esclave pour le bien des chrétiens. Et aussi dans Galates 5, verset 13, on voit que nous sommes des esclaves les uns envers les autres. Et pourquoi? Quel est le motif? Le même motif que le Seigneur Jésus avait. Pour le Seigneur Jésus, c'était l'amour. Pour nous, c'est juste la même chose. Dans les deux passages mentionnés, dans 2 Corinthiens 4 et Galates 5, on voit que c'est par amour que nous sommes des esclaves. Un autre verset, dans Marc 10, verset 14, « Quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. » Est-ce que quelqu'un de nous veut être le premier? Le Seigneur dit qu'il soit l'esclave de tous. Là, il sera le premier. Quel défi, quel encouragement aussi. Mais en même temps, quelle humiliation, parce que la chair n'aime pas ça. On doit donc juger la chair, absolument, pour suivre le Seigneur Jésus dans ce chemin. On voit aussi, ce serait une étude spéciale, voir les relations d'esclaves, donc des chrétiens, comme esclaves, dans le cas de Paul, dans l'épître au Philémon. C'est vraiment une très belle épître qui nous montre dans la pratique ce que c'est un esclave. Donc, on peut dire, pour conclure le sujet, que ce sujet est présenté dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour nous encourager à nous donner nous-mêmes entièrement pour le Seigneur et pour sa volonté, afin que sa volonté soit réalisée dans les détails, dans tous les détails de notre vie, pour sa gloire et aussi pour le bien des saints. Et juste pour terminer, c'est aussi un sujet très intéressant, mais aussi encourageant, voir les esclaves dans l'Apocalypse. Si on prend le premier verset de l'Apocalypse, on a une clé vraiment à comprendre. Le livre de l'Apocalypse a été donné pour des esclaves. Si moi, je veux suivre ma propre volonté, il y a beaucoup de gens qui étudient l'Apocalypse parce qu'ils sont curieux, mais ils ne peuvent pas comprendre l'Apocalypse. C'est impossible. Si je ne suis pas vraiment un esclave du Seigneur, pour faire sa volonté, je ne peux pas comprendre l'Apocalypse. Seulement si je suis vraiment un esclave, comme le Seigneur et comme Jean l'apôtre. Et la caractéristique d'un esclave dans l'Apocalypse, c'est qu'il est en accord avec le trône de Dieu. Le trône de Dieu est le centre de l'univers, mais le centre aussi du gouvernement de Dieu. Si moi je suis un esclave, je suis donc pratiquement et moralement en accord avec la volonté de Dieu, comme vu dans son trône, vous voyez. Donc la clé pour l'Apocalypse, c'est vraiment un esclave, c'est quelqu'un qui est en accord avec le trône de Dieu, où il y a toute l'autorité de Dieu, toute la puissance de Dieu, qui est le centre du gouvernement et de l'autorité. Et on voit donc dans ce livre comment la volonté de Dieu est établie dans l'univers et comment toute la sphère de la volonté humaine est mise de côté. Mais Un esclave déjà maintenant est en accord avec la volonté de Dieu. Avant que cela soit réalisé, la volonté de Dieu est connue et réalisée dans ses esclaves, d'une façon visible dans leur corps. Donc voilà l'importance de notre corps. Qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar a dit dans Daniel 3, lorsque les amis de Daniel étaient fidèles? Ils avaient donné leur corps à Dieu, parce que la volonté de Dieu était vue dans leur corps. Leur corps était placé dans le four. Voilà une preuve de la réalité du fait qu'ils étaient les esclaves de Dieu. On ne peut pas avoir les pensées de Dieu, recevoir les pensées de Dieu, si on n'est pas vraiment un esclave. Donc on voit dans ce livre de l'Apocalypse, après l'introduction publique du règne de Dieu, que même là, les croyants sont vus encore comme esclaves. Pourquoi? Ils étaient fidèles pendant le temps de la résurrection du Seigneur, et ils seront les esclaves de Dieu, Apocalypse 22, verset 3, pour toujours. Parce qu'ils étaient en accord avec la pensée de Dieu pendant la résurrection, ils seront toujours maintenant. Et en même temps, ils seront des sacrificateurs et des rois. C'est beau ça? Nous serons donc des esclaves dans ce sens-là pour toute l'éternité, mais nous serons des rois pour représenter Dieu dans l'univers. Nous serons des sacrificateurs pour le servir d'une façon sacerdotale. Donc c'est ça qu'on voit comme le résultat du fait que nous sommes des esclaves. La louange. Dieu sera loué. Et c'est très beau de voir ça dans Apocalypse 19, la voix qui sortit du trône, « Louez notre Dieu, vous, tous ses esclaves !» Vous voyez, l'encouragement pour nous d'être des esclaves, ce sera pour la gloire de Dieu. J'ai trouvé toujours très beau ça, ce cantique hollandais qui dit « Être ton esclave est un plus grand honneur que de régner sur toute la terre. » Mais on pourrait ajouter « En étant des esclaves maintenant du Seigneur, on va régner avec lui, pas seulement sur toute la terre, mais sur tout l'univers, pour sa gloire. » Quelle portion bénie !